discutons avec deux femmes de l'Inédit et maintenant avec Evelyne Merlard de Frida Kahlo, cette autobiographie, non pas autobiographie, cette biographie, pardon, réalisée par une femme française-mexicaine. Et alors, nous en étions à parler du grand amour de Frida Kahlo avec Diego Rivera, cet autre peintre mexicain très connu. Cette passion n'a pas toujours été très calme, comme toutes les passions, évidemment.
Non, déjà, l'union avait paru un peu scandaleuse. Bon, Diego Rivera était beaucoup plus âgé qu'elle et il avait déjà eu deux femmes, dont une en France, parce qu'il avait vécu assez longtemps en France. Il avait vécu en Union soviétique aussi, il avait beaucoup voyagé. Et il avait une autre femme au Mexique même, avec laquelle il s'était marié à l'église. Mais comme à l'époque, le gouvernement mexicain insiste sur l'importance des lois civiles, ce mariage n'avait pas vraiment de valeur aux yeux de la loi. Donc il pouvait encore se remarier et il se remarie effectivement avec Frida Kahlo qui a 20 ans, qui a 20, 22 ans, quelque chose comme ça. Lui, là, en a 45. Et il se marie cette fois avec elle devant l'état civil et on dit que c'est le mariage de la colombe avec l'éléphant. Il est très gros, il est très... Il se promène toujours avec un pistolet sur lui, dont il fait usage d'ailleurs quand il a trop bu, ce qui lui arrive aussi assez souvent. C'est un bon Mexicain qui facilement passera toute une soirée, toute une journée ou même deux jours ou trois à boire avec ses amis, à danser, à chanter. Il chantait beaucoup, d'ailleurs, de ces chansons que vous avez passées tout à l'heure ici sur les ondes. Et à côté de lui, bon, Frida, c'est... À l'âge où elle l'épouse, assez frêle, assez pas très exubérante dans sa manière de s'habiller, de se maquiller, alors que sous son influence, elle va devenir très, très colorée, si je peux dire. Il aimait beaucoup les femmes très mexicaines. Bon, c'est une femme brune, mais elle va commencer à s'habiller à cause de lui, ou pour lui plaire, avec les habits typiquement mexicains, se mettre beaucoup de bijoux, beaucoup de bracelets, beaucoup de bagues, beaucoup de boules d'oreilles, des coiffures assez élaborées avec ses très longs cheveux. Elle fait ça, tout ça pour lui plaire, et pour le garder, parce qu'il est très volage. Enfin, il est...
Le macho super mexicain, quoi.
Absolument, absolument. Il est tout à fait typique. D'ailleurs, il avait cette réflexion qui faisait bondir Trotsky plus tard. Il lui disait, oh, écoute, si t'étais allé avec Staline voir les putes, eh ben, tout se serait bien arrangé. Et ça rendait Trotsky fou furieux quand lui... il disait, enfin, tu peux pas parler sérieusement, comment tu peux dire des choses pareilles. Mais je suis sûre que moi, je connais un petit peu ce type d'homme sud-américain. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'affaires qui s'arrangent en allant boire des verres ensemble. Bon, il faisait ça facilement, Diego. Et bon, il rencontrait beaucoup de femmes.
Mais Frida, elle était quand même une femme très indépendante. Elle a souffert de cet aspect
absolument
macho de Diego Rivera. Mais elle en a pris un peu son parti et elle a décidé quelquefois de mener sa vie à elle.
Absolument,
aussi.
Mais peut-être pas tout au début. Et elle a attendu quand même quelques années. Et c'est vrai qu'elle a eu, cette liaison avec Trotsky, qui est assez célèbre. Elle a eu une liaison avec un photographe américain, Murray, je ne me souviens plus son prénom maintenant, qui était un photographe très, très célèbre à l'époque aussi. Elle a eu des liaisons avec des femmes aussi, parce qu'elle n'était pas prisonnière du... elle était très... Il semble que... Disons, ça... Elle souffrait tellement dans son corps, elle était tellement quelquefois affligée par ses problèmes physiques qu'il lui en venait une espèce d'appétit forcené pour la vie. C'était comme si chaque douleur qu'elle ressentait lui faisait aimer la vie encore plus et essayer de la dévorer par tous les côtés. Et peut-être qu'elle sentait aussi que sa vie ne serait pas très longue et qu'il fallait, en profiter le plus possible. D'autant plus qu'elle passait de très longues périodes au lit ou dans une chaise roulante où elle ne pouvait rien faire. Alors je crois que quand elle se sentait mieux, d'ailleurs elle arrêtait de peindre quand elle se sentait bien. Elle a peint surtout quand elle était très malade, très mal, curieusement. Et dès qu'elle se sentait bien, en fait, elle sortait, elle aimait, elle faisait d'autres choses. Et c'est vrai qu'elle a eu... Et ils se sont séparés, ils se sont divorcés, et puis ils se sont remariés. Et finalement, elle est morte avant lui, et c'est encore lui, disons, qui l'a accompagnée dans ses derniers moments. Et ils avaient entre eux une espèce de fidélité assez spéciale. Bon, ils formaient un couple très, très spécial et très, aussi très à la mode dans les milieux artistiques, non seulement mexicains, mais new-yorkais aussi, parce qu'ils fréquentaient, ils allaient quelquefois pour des expositions à New York. Oui, ils ont eu tous les deux une vie très passionnée.
Dans le cadre de ces voyages à New York, par exemple, qu'elle a parfois aussi entrepris, histoire de mettre un peu une distance entre Diego Rivera et elle, hein, parce que je crois qu'elle ne résistait pas toujours si bien que ça. Peut-être Diego avait l'air de prendre ça plus à la légère. Je dois dire que ce n'est pas ce qui m'intéressait de savoir, mais elle, en tout cas dans son livre, quand on retrace ce qu'elle ressent, elle dit « il faut que je parte, il faut que je mette la distance, il faut que j'arrête d'être écrasée par cette relation ». Alors elle s'en va à New York, elle s'en va aussi en Europe. Et en Europe, elle rencontre André Breton et le mouvement surréaliste. Et là, elle n'est pas si enthousiasmée que ça par le surréalisme, non?
Non, parce que c'est vrai qu'elle est...
Elle est pas si révolutionnaire que ça.
Oui, elle est un peu... dans sa manière de peindre, elle est un peu surréaliste. Mais en fait, sans le savoir, j'entends, elle n'a jamais été dans une école. Et c'est Breton qui, voyant ses peintures au Mexique, dit « Ah, mais vous êtes surréaliste, etc. Il faut venir nous voir, il faut voir ce qu'on fait en France, etc. » Et oui, c'est vrai qu'elle arrive en France peut-être un peu au mauvais moment. On lui propose de faire une exposition là-bas. Mais c'est l'année 1939 et tous les artistes européens sont bien plus préoccupés par la montée du nazisme et la menace de la guerre qui se précise chaque jour. Ils sont beaucoup plus engagés dans des luttes politiques en fait que dans des luttes artistiques. Et elle ne comprend pas très bien ça. Elle dit oui, bien sûr, c'est important ce qui se passe en Allemagne. Bon, elle ne voit peut-être pas, disons, l'imminence du déclenchement du conflit, mais elle les trouve... Oui, elle les trouve pas très intéressants. Son exposition a un succès d'estime, mais pas plus non plus. Puis finalement, elle remballe tous ses tableaux, elle reprend le bateau et elle repart au Mexique à temps pour pas être bloquée en Europe. Effectivement, Breton fait d'ailleurs, il y a un portrait d'elle à la fin du livre de Rauda Jamis. Il y a ce portrait d'André Breton d'elle.
Mmh. On pourrait peut-être parler maintenant... de la force de ce livre, parce que je crois que ce livre, il nous raconte tout ce que tu nous as relaté maintenant, de la vie de Frida Kahlo, mais il a une force étonnante, c'est qu'il transmet vraiment les sentiments de Frida Kahlo. Je ne sais pas comment
l'auteur a réussi à réunir ces documents. Grâce à l'auteur, en fait, parce que je dirais qu'il y a trois voix dans ce livre. Il y a la voix de la narratrice, de l'auteur, qui est une voix très enjouée, très spirituelle, et qui est très belle. Et puis, elle prête sa voix à Frida Kahlo. C'est Frida Kahlo recréée par la narratrice. Alors là, c'est une voix très intense, très passionnée. Et puis, il y a la voix même de Frida Kahlo, parce qu'elle donne quelques extraits de lettres, d'écrits de Frida qui parle de gens ou de situations. Et là, quand c'est Frida Kahlo, historiquement, qui parle, si je peux dire, en fait... c'est une manière très concise et assez caustique et assez sèche de dire les choses. Alors que la narratrice, qui n'est pas Frida Kahlo, mais qui a l'air de se mettre dans la peau de cette femme et recrée quelque chose de très, très, très intense, très passionné, qui, j'espère, et ça me plairait beaucoup, ressemble à ce qu'était vraiment Frida Kahlo et qu'elle n'a peut-être pas écrit, mais elle l'a peint, ça c'est sûr. Enfin, cette intensité, elle est dans ses toiles.
C'est ça, je crois que quand on voit quelques copies, il y en a quelques-unes dans le livre, heureusement, même s'il n'y en a pas à toutes les pages comme on aimerait parfois qu'il y ait. Il y en a quelques-uns et c'est vrai qu'on ressent très fort ressortir des peintures, les sentiments de douleur, justement de cette foi en la vie en même temps, parce qu'on retrouve toujours des animaux, non, des fleurs, des plantes dans les tableaux qui sont chaque fois retransmis dans le livre.
Des pastèques. À la fin de sa vie, elle lit « Vive la vie ». C'est un tableau où il y a des pastèques ouvertes, enfin, très rouges. Et puis la pastèque, c'est vraiment un fruit qui désaltère, qui est très, enfin, très juteux. C'est vraiment... effectivement, il y a cette contradiction. Elle est toujours proche de mourir, finalement, depuis le moment où elle a eu cet accident. Et puis elle a une force et une envie de vivre incroyable. et de donner la vie même, mais malheureusement, elle ne pourra pas.
Alors, je crois qu'on peut encourager nos auditrices de Revue Ménage de reprendre ce livre de Frida Kahlo, qui n'est pas récent, non ? Il n'est pas sorti récemment.
Non, mais... il est de 1985.
Il est sorti en livre de poche, oui, comme nous dit Annette. Donc, on peut le retrouver, on peut le lire et je crois qu'on peut s'imprégner de ce personnage magnifique.
Absolument.
Histoire de se reporter dans un autre pays, mais dans des sentiments qui peuvent être très proches pour tout le monde si une fois on a affronté une douleur comme celle-là.
Avant de se quitter avec Annette Zimmermann et Evelyne Merlac, on va parler encore un peu de ce qu'on peut trouver à la librairie inédite de Carouge, 26 avenue Cardinal Mermillot. À l'inédite, il y a un catalogue et je crois que la semaine prochaine, c'est la parution du nouveau catalogue.
Oui, les lectrices qui participent à l'élaboration du catalogue qui paraît donc 5 fois par année se sont réunies récemment et ont préparé donc le catalogue du mois d'avril qui portera sur un sujet, je ne vais pas dire bateau, mais en tout cas indispensable à traiter cette année, c'est-à-dire la Révolution française. Et il est clair que nous avons bien sûr sélectionné un certain nombre d'ouvrages qui traitent essentiellement du problème des femmes dans la Révolution française. Vous trouverez donc dans ce prochain catalogue quelques suggestions de lecture concernant des ouvrages un petit peu théoriques sur l'évolution pendant la Révolution française de la situation des femmes. Sont-elles devenues des citoyennes à part entière ? Bon, on sait bien qu'il y a eu plusieurs problèmes avant et après, mais je pense que ça peut être l'occasion de s'interroger un petit peu sur la situation des femmes à ce moment-là. Et bien sûr, plusieurs biographies de femmes de l'époque. Alors, je pense notamment à Sophie de Condorcet, à Olympe de Gouges et à Théroigne de Méricourt, qui sont donc 3 personnes très importantes de cette époque.
À Charlotte Corday.
À Charlotte Corday, oui. Il y a aussi eu les contre-révolutionnaires qui ont aussi leur mot à dire, ça c'est sûr. Et c'est l'occasion de savoir un petit peu plus précisément comment s'est passé pour elle ce cap de 1789.
Alors voilà, tout ceci donc à la librairie L'Inédite. Ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que le livre concernant Clara Schumann ou La vie à quatre mains, écrit par Catherine Lépron, est publié chez Robert Laffont et que celui concernant Frida Kahlo, écrit par Raouda Ramis, est publié aux Presses de la Renaissance. Aussi, la librairie L'Inédite où vous trouvez tout ceci et encore bien d'autres choses, 26 avenue Cardinal Mermillot. Peut-être que vous pouvez nous rappeler vos horaires.
La librairie est fermée le matin, excepté le samedi. Le samedi matin, elle ouvre à 10h et ferme à 2h de l'après-midi. Sinon, elle est ouverte tous les après-midi de 1h30 à 6h30.
Evelyne Merlard et Annette Zimmermann, merci et puis à bientôt donc.
Merci.
Il a monté son groupe il y a 2 ans à peine, un chômeur en déroute. Le fils de la pharmacienne, un bassiste de Toulouse, un batteur Luke et Harlem, un mélange de jazz and blues, version new wave africaine. Il a vendu sa mob et le cuir de son blouson, sacrifié à la mode, une musique sans concession. Depuis le temps qu'il rame sur le sable au fond d'une cave, je peux vous dire, messieurs, dames, 4 séjours, ça va faire grave. Quand Jimmy dit what I say, come on. dans sa galère. Et je lui vois toujours, lui je peux pas m'en défaire. J'ai caressé son jean, j'ai dormi sur sa guitare. Chaque fois que je l'imagine, ça fait bizarre, bizarre. Comme Jimmy dit, what I say.
Thank you.
Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de littérature et dans 15 jours, on recommencera car on va se promener, c'est ça?
Oui, on est Radio Zone d'ailleurs.
Enfin, hein, tu m'as promis que nous allions nous promener dans 15 jours.
On s'est engagé à aller se promener dans 15 jours puisque c'est Radio Zone qui sera au Salon du Livre pendant toute la durée du Salon du Livre. Et alors Remue Ménage, bien sûr, on s'est engagé à dire on y va le mercredi, comme ça on est en direct du salon.
On adore ça, il faut dire.
Papoter avec tout le monde autour des livres, c'est vrai qu'on trouve ça super. Alors on espère qu'on fera plein de rencontres, on ne sait pas déjà maintenant de quoi exactement il va s'agir, mais on va sûrement faire plein de rencontres intéressantes qu'on vous rapportera presque en direct l'après-midi du fameux matin.
On le tiendra au chaud jusqu'au soir. Alors avant cela, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre, c'est Eva Sarro qui est peintre, qui habite à Genève et qui vient de partir hier pour le Japon où elle a une exposition. Alors c'était samedi dans son atelier, plein de peintures étalées un peu partout. Eva, il faut le dire, quelque peu excitée car il fallait absolument tout finir avant mardi, mais elle m'a quand même accordé un petit quart d'heure. Alors je me suis entretenue avec elle sur son travail et aussi les conditions dans lesquelles elle expose au Japon.
Ça fait 2 ans que tu viens de me dire que tu travailles d'arrache-pied. Là, on est au milieu de toutes tes œuvres. Qu'est-ce que ça fait maintenant que ça touche à sa fin, ce travail ?
Il ne touche pas vraiment à sa fin. C'est vraiment la fin d'un épisode, mais le travail va continuer dans cette direction. Enfin, je ne sais pas exactement quelle direction il va prendre, mais il va continuer. C'est un point important, un moment important pour moi de préparer une exposition de cette importance, parce que ça me permet de faire le point sur des tas de choses et de comprendre mieux où je me situe. Alors ça, c'est un moment spécial.
Tu sais où tu te situes ?
Oui, mais ça ne se décrit pas en parole. Hein. Je me rends compte simplement ce que je vais faire, ce que j'essaye de faire comme travail, ce que je vais essayer de continuer de faire et quel sujet m'intéresse davantage. Et je me rends compte aussi de certaines conséquences que ça a eu sur ma personnalité, sur mon évolution, enfin, j'aime pas parler de personnalité, mais sur mon existence en tant qu'être humain, ce que ça a eu comme influence. Et je trouve important de voir ça. Mais encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on peut dire en parole.
Alors donc, l'exposition, il faut le dire, elle sera au Japon. Tu pars pour le Japon. Tu vas montrer tes œuvres là-bas. Est-ce que tu as l'impression que le public japonais, que tu connais un peu quand même, réagit pareillement que nous-mêmes face aux peintures ?
C'est très difficile. Moi, j'aime pas penser en termes de japonais, ici, là-bas, etc. Parce que je crois que c'est une histoire d'individu, tout ça. Bien sûr que la culture d'un groupe a une importance, elle influe, bien entendu. Mais les gens qui viennent à la galerie au Japon sont des gens qui réagissent avec beaucoup de curiosité. Et je n'ai pas encore rencontré ça à Genève, mais c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas encore eu les contacts avec la bonne galerie. Mais ça va peut-être se faire. Mais en tout cas, il y a une vivacité et un dialogue qui s'est engagé là-bas que je n'ai pas encore rencontré ici. Et aux États-Unis, c'était différent aussi, c'est vrai. Mais enfin, j'aime mieux pas catégoriser ça par pays, mais plutôt par situation. Hein. Ça dépend de la galerie avec laquelle tu es en contact, les gens qui viennent, etc.
C'est toujours difficile, je trouve, de parler de peinture à la radio, surtout parce que, évidemment, on ne voit pas ce qui se passe. Là, nous, on est entouré de tous ces tableaux. Il y en a quand même qui vont, enfin, pour moi, je vois quand même 2 directions un peu différentes, même si dans le fond, ça se retrouve. Est-ce que tu peux, par exemple, là, je vois ces tableaux en couleur, nous en parler un peu ? T'arrives à mettre des mots sur ce que tu as peint ?
C'est très difficile. Bon, par moments, oui. Si tes questions étaient peut-être plus spécifiques sur un tableau, peut-être que je pourrais répondre. Ça dépend tout du moment. Des fois, j'ai envie de dire des tas de choses dessus. Et je peux parler pendant longtemps. Et d'autres fois, non. Mais disons, il y a une chose, c'est que les tableaux en couleur sont une évolution assez naturelle de ces têtes que je faisais et que je fais encore, mais elles sont différentes aussi. Et ça, ces têtes ont donné tout naturellement c'était des sortes d'états intérieurs que je peignais. Et puis, je me suis rendu compte que c'était en fait des paysages. Et c'est pour ça que j'ai fini par les appeler mes paysages du moment, parce que ça changeait à chaque moment. Et d'une peinture à l'autre, ça change énormément de style aussi. Pas vraiment de style, si tu veux, mais ça change d'atmosphère. Mais il y a un fil conducteur. Et à force de travailler sur ces travaux assez petits en couleur, j'avais besoin de faire autre chose en plus grand et puis pour finir, j'ai fait tout naturellement ces collages sur papier journal. Enfin, il y a un fil conducteur, il y a une recherche que je comprends assez bien, mais encore une fois, ça se dit difficilement en mots.
Ce qu'on peut dire, c'est que ces paysages sont complètement abstraits, qu'il ne faut pas s'attendre à voir des bateaux sur un lac, des petites maisons et des tunnels. C'est vrai que c'est complètement abstrait et que ça amène beaucoup plus vite à ressentir quelque chose de l'intérieur. Maintenant, le travail que tu as fait avec les journaux, alors là, ça part aussi quand même d'une réflexion sur ce qu'on vit à propos des médias.
Oui, bon, c'est clair que les journaux, ça fait déjà longtemps qu'ils me dérangent. Et puis, j'avais plutôt une réaction destructrice, une sorte de rogne qui me prenait aux tripes sur la bêtise de ce qui se publiait et sur les images complètement stupides que la plupart de nos journaux propagent. Et je me suis posé toutes sortes de questions et je continue à m'en poser énormément. Sur les raisons de tout ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qui se passe vraiment, qui prend les décisions, et qui essaye d'influencer qui, comment, etc. Et puis j'en avais assez d'être simplement en rage avec ça. Et je me suis dit, j'ai eu une envie de m'amuser avec, puis bon, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses que je pourrais en dire, mais enfin, soyons sélectifs. Et j'ai simplement eu envie de faire un collage. Et puis petit à petit, j'ai eu envie, c'est ce collage, enfin c'est les formes que les collages avaient, tous les journaux, les photos, les textes, comme ils s'arrangent, m'ont invité pratiquement à faire du graphisme dessus, enfin à tirer quelques traits noirs par-ci, par-là, etc. Ça donnait des formes. Enfin bref, ça a évolué progressivement, mais sans préméditation complète. Voilà. Simplement, c'était un retravail sur... j'avais envie de recycler ces papiers journaux que je trouvais vraiment trop moches. Voilà. Mais il y a des gens qui vont trouver mes peintures très moches aussi. Je ne fais pas d'illusions et ce n'est pas grave.
Mais j'ai lu dans un article que tu peignais les yeux fermés. Enfin là, je résume, mais ça m'étonne beaucoup.
Au début, les têtes que je faisais... bien sûr que je regardais bien où était la page, mais il y a un rapport qui s'établit entre les yeux et la main quand tu dessines. Et tu te rends compte vraiment où tu dessines. Et puis tu peux aussi apprendre, avec ton regard, quand tu fermes les yeux, tu suis plus ou moins lentement certaines régions et tu sais, ta main va aussi plus lentement et tu sens quand même où tu vas. Et je commençais les yeux fermés, mais je continuais les yeux ouverts après avoir essayé de me rappeler un peu ce que j'avais vu. Un peu comme le matin quand on essaie de se rappeler d'un rêve qui semble important. On ferme les yeux, on essaie de faire une sorte de repérage, en tout cas c'est ce qui m'arrive. Et à ce moment-là, quand j'ai les yeux ouverts, je me rappelle un peu de ce que j'ai vu. Et je continue à peindre après les yeux ouverts, bien entendu. Et je réagis à ce que je vois et ce qui se développe.
Tu écris beaucoup aussi, en peignant.
Oui, c'est vrai. Mais parfois, je suis complètement absorbée dans la peinture et je n'écris pas du tout. Et parfois, j'écris un peu en avalanche. Je ne sais. Des fois, quand je relis après, je me rends compte que la syntaxe était un peu bizarre. Mais j'écris beaucoup et c'est un peu... Oui. Ça va de l'un à l'autre. Je peins et je vis quelque chose d'intense qui tout à coup vient sous forme de mots. Ça se verbalise en quelque sorte. J'arrive à l'écrire.
Tu nous as dit au début qu'à ce stade-là du travail, tu arrivais peut-être à mieux voir les thèmes que tu voulais aborder. Ils sont lesquels, ces thèmes ?
Bon, suivant les travaux, il y en a d'autres. Hein. Dans les travaux en couleur, il y a toutes sortes de sujets que j'ai envie d'aborder. Bon, premièrement, vu que je regardais au fond de moi-même et que j'en sortais des choses qui me semblaient être des paysages, de choses tout à fait énormes, j'ai déjà eu cette réflexion sur ce qui est petit et la relation à l'infiniment grand. Et en regardant l'infiniment petit, on se rend compte de certaines choses, de l'infiniment grand. Et je me suis aussi dit, finalement, nous nous voyons comme êtres humains d'une certaine grandeur, nous nous voyons séparés du reste. Mais j'ai fini par me rendre compte de plus en plus que nous ne sommes pas si séparés que ça. C'est évident puisqu'on respire, on respire toujours, mais il y a d'autres relations. Et je nous sens, enfin ça m'a vraiment changé hein, ma conception et mes sentiments sur notre situation en tant qu'être humain. Et aussi de notre vie et de la mort et de notre relation entre ce qu'on appelle la vie de maintenant, enfin nous en tant qu'être humain et ce qui vient après. Enfin, il y a toutes ces relations parce que j'ai passé de l'infiniment petit à l'infiniment grand et d'un espace qu'on croit intérieur et qui finalement me rappelle des choses tout à fait extérieures. Je me suis rendu compte qu'il y avait des rapports vraiment... On ne les mentionne en général pas, mais ils sont vraiment beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Alors, enfin, c'est toute une réflexion sur notre existence en tant qu'être humain et notre relation à l'environnement qui s'est renforcée, qui s'est clarifiée. Et dans la série avec les journaux, bon, ça c'est assez amusant dans un sens parce que j'ai fait une sorte de recyclage et je me suis retrouvée, bon, j'ai retravaillé sur des choses qui sont quand même de notre, qui sont un matériel imprimé, qui sont de notre époque. Et j'ai fini par avoir des formes tout à fait primitives dessus, très élémentaires. J'ai l'impression que je retrouve une écriture élémentaire. Alors c'est quand même un peu paradoxal. J'en efface une nouvelle pour en retrouver une qui, à mon avis, est plus élémentaire, plus ancienne. Enfin, je ne sais pas. Je crois que j'essaye de parler de quelque chose qui est plus essentiel à l'être humain que toutes ces bêtises de la mode et toutes ces histoires d'apparence qu'on nous vend, quoi, et sur lesquelles toute notre industrie marche, quoi.
Et peindre, c'est ta passion, mais là, tu vas exposer au Japon, c'est une immense, c'est vraiment un pas en avant dans ta carrière. Comment ça se passe? C'est difficile de trouver des lieux pour exposer?
Oui, c'est toujours difficile de trouver des lieux pour exposer, surtout quand tu essaies d'avoir une relation avec la personne de la galerie ou de l'espace d'exposition. Enfin, moi, j'aime travailler avec des gens avec qui je m'entends, et même s'ils n'aiment pas entièrement mon travail, mais qu'on se comprenne, qu'il y ait une amitié qui puisse se développer. Autrement, ça ne sert à rien, parce qu'une exposition, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut que tu puisses te développer pendant que tu exposes et que ça t'avance à quelque chose. Donc, oui, c'est difficile de trouver des espaces, surtout donc des espaces de qualité. C'est ça.
C'est quand même assez paradoxal, tu vis à Genève, tu travailles à Genève et c'est quand même une exposition importante, elle se passe au Japon.
Oui, mais je crois qu'on n'est jamais prophète en son pays, ça c'est connu. Je crois que quand on va à l'extérieur, ça a commencé aux États-Unis, je crois que les gens sont plus curieux de ce que je fais. Et c'est là en tout cas que j'ai appris à être plus sociable aussi moi-même. J'étais plus fermée quand je n'étais qu'à Genève, j'ai tout fait un peu à Genève. Quand je suis allée aux États-Unis, j'ai commencé à avoir des échanges avec les gens et il y a eu certaines choses qui sont apparues qui n'étaient pas possibles ici. Et il y a eu une réceptivité qui était là et que je n'avais pas ici. D'autre part, Genève est une petite ville, hein, et les gens sont très fermés dans leur petite clique et dans leur petit cercle. Donc c'est évident que c'est très difficile de rentrer. Et ils n'ont pas tellement confiance en leur propre goût, on dirait. La plupart des gens qui s'occupent d'art et qui devraient être un peu plus ouverts d'esprit sont en fait... Ils ont très peur. J'ai l'impression qu'ils attendent que les choses soient confirmées, que les artistes soient confirmés à New York ou à Tokyo avant de se lancer. Alors bon, puisque j'ai retrouvé des portes ouvertes à New York, enfin ça commence à New York et ça a déjà bien démarré au Japon. Alors bon, je continue sur cette voie.
C'était Eva Saro qui est peintre et qui expose au Japon, d'où la musique que vous entendez. Une musique qui n'est pas en relation du tout avec ses peintures, mais simplement on l'accompagne un peu dans son voyage au Japon. Vous êtes toujours à l'écoute de Romy Ménage sur Radio Zone 93.8. Thank you. remue ménage, c'est à moi de parler. Tout le monde me fait des gros signes. Ma copine n'est pas du tout contente du reste.
Elle rate tout l'effet qu'on avait envie de vous faire faire. Excuse-moi, Marianne. On avait dit qu'effectivement, on voulait vous proposer de regarder par une autre fenêtre une fois que celle où on a l'habitude de regarder. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de vous intéresser aux handicapés mentaux. Eh bien, l'association Autrement Aujourd'hui nous propose justement des fenêtres sur ce monde que peut-être pas tout le monde a eu l'idée d'aborder une fois ou s'est trouvé confronté. L'association Autrement Aujourd'hui, elle existe depuis 1982 et depuis ses 7 ans, elle travaille à la mise sur pied d'une équipe théâtrale, d'une entreprise théâtrale, donc dont la singularité, c'est que les comédiens sont des personnes handicapées mentales. Alors, il y a déjà eu plusieurs spectacles, dont peut-être vous en avez vu quelques-uns, par exemple au Festival de la Bâtie, il y a 2 ans. Des spectacles magnifiques, étonnants, justement, par la présence de ces comédiens qui jouent avec une force très, très particulière. En ce moment, à Saint-Gervais, Maison des Jeunes et de la Culture à Genève, le Théâtre de l'Esquisse, qui est donc le théâtre de l'association Autrement Aujourd'hui, présente son nouveau spectacle qui s'appelle « Éclat de verre dans un terrain vague ». Et alors, nous aimerions beaucoup que beaucoup d'entre vous aillent voir ce spectacle et participent aux nombreuses autres manifestations qui sont organisées à l'occasion justement de ce coup d'œil un peu particulier à donner sur un autre monde par l'association Autrement Aujourd'hui. En effet, l'association vous propose non seulement de venir au spectacle, spectacle qui a été écrit et mis en scène par Gilles Annex et Marie-Dominique Mascret, mais aussi de venir voir l'exposition photo, de venir au bar et discuter avec eux parce qu'ils seront là tous les jours, de voir les présentations des autres ateliers de l'association, ateliers musique, ateliers théâtre dans d'autres villes que Genève par exemple. Vous n'aurez plus l'occasion malheureusement d'aller au cinéma. Il vous proposait 3 films, mais c'était à 18h ce soir, la dernière séance avec l'âme sœur de Murer. Mais par contre, vous pourrez aller voir des vidéos qui passent jusqu'au 22 avril, tous les jours, de 17h à 19h, sauf le dimanche et le lundi. Donc il suffit de consulter le programme un peu plus détaillé de ces passages vidéo. Alors nous aimerions beaucoup que vous alliez voir ce spectacle, d'abord parce que tout le monde nous l'a dit, ce spectacle est magnifique. Nous irons le voir cette fin de semaine. Et puis, nous aimerions beaucoup et nous espérons beaucoup que Marie-Dominique Mascret et peut-être Gilles Annex aussi viendront dans notre studio la semaine prochaine pour parler de l'activité de l'association Autrement Aujourd'hui. Alors jusqu'à dimanche, parce que dimanche c'est seulement jusqu'à dimanche le théâtre, dimanche 16 avril, le spectacle Éclat de verre dans un terrain vague à la Maison des Jeunes de Saint-Gervais à Genève à 20h30 et le dimanche à 17h.
Voilà, vous écoutiez Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. On a envie de rester, mais on doit partir puisqu'elles sont déjà là, nos copines de Radio Pleine Lune, prêtes à sauter sur les nouvelles que vous attendez avec impatience. Et nous, eh ben, nous vous retrouvons mercredi prochain à 17h sur Radio Zone 93.8. Et pour ceux qui n'ont pas tout entendu et qui ont envie d'en entendre encore, qui en redemandent, nous sommes rediffusés demain, toujours sur Radio Zone 93.8.
Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. larves de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, rire.